Amis de Radio Silence, bonjour. Nous sommes le jeudi 19 décembre. Je suis Élise Bock. Vous écoutez Flash sur le monde depuis Yaoundé, où il y a du nouveau dans le débat d'idées et dans ce qu'on va appeler la décentralisation. Bien, la décentralisation, quand j'entends ce genre de choses... Je suis très à l'aise parce que on est entre la politique de la ville et tout ce qui est c'est pas décentralisation, comment on dit ce genre de choses là, lorsqu'on délègue, voilà, délégation de pouvoir au niveau local, comme on disait en France, afin que la décision soit prise auprès du public. Qui se plaint un peu des décisions qui sont prises par le gouvernement, comme ça, au-dessus de sa tête. Mais auparavant, comment cette décentralisation arrive, c'est que la dernière fois, on était resté sur le gouvernement qui a lancé les élections locales, parce que voilà, on ne savait pas que la décentralisation allait suivre derrière, élections locales, municipales, notamment législatives, régionales pour plus tard, qui sont prévues pour le 9 février. Bon, il y avait beaucoup de questions en suspens pour ces élections qui arrivaient comme ça, et surtout qu'elles avaient un côté éliminatoire très brut et très brutal. Il y a des recours qui sont d'ailleurs en cours, parce que des listes n'ont pas pu être déposées à temps, parce qu'il y a eu, pour certains, ce qu'on appellerait des vices de procédure. Et il y a des recours au Conseil constitutionnel, il y a carrément un parti qui n'est pas parti, parce que c'était un peu déjà trop tard. Bon, bref, il y a des soucis, donc le débat c'est est-ce qu'on fait quand même des élections dans ces conditions de précipitation, dans des conditions aussi de guerre civile, dans une partie qu'on appelle le nord-ouest, le sud-ouest, limitrophe du Nigeria, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut vraiment décemment faire des élections alors qu'il y a un génocide en cours, appelons-le comme cela, depuis 3 ans? Est-ce qu'on peut organiser des élections de façon précipitée dans un climat de contestation généralisée comme ça du gouvernement et des pratiques du pouvoir qui ne plaisent pas, notamment dans la sélection des listes pour les élections? Bon, les élections, on ne sait pas, est-ce qu'elles auront lieu dans ce contexte plus ou moins, comment on va dire, opaque, ou la loi électorale aussi serait une loi un peu ambiguë qui avantage... Donc une loi qui avantage le parti en place. Le président a pris les devants et qu'est-ce qu'il a fait? Il a initié la décentralisation, il a convoqué une séance exceptionnelle du Parlement pour initier, lancer la décentralisation et puis pour reviser la loi électorale de façon à ce qu'elle soit un peu plus juste. Et c'est vrai que ça coupe un peu l'herbe sur le pied de ceux qui contestaient l'élection, alors que les recours aussi sont en cours. Ce que cette décentralisation apporte, c'est un double débat. Elle apporte le débat sur qui peut être candidat et qui ne peut pas l'être. Ça, c'est intéressant. C'est vrai qu'il y a une réalité sociologique que tout le monde connaît, qui est ethnique, comme dit M. Bernard Lugan, une démocratie qui épouserait un peu les contours de l'ethnicité, donc qui n'en serait plus une. Et ici, on a quand même considéré que l'ethnie ou l'ethnicité était un critère qui pouvait être très clivant et qui avait aussi du sens en termes de gouvernance. Et le président a décidé que ben, il fallait être autochtone d'une région, enfin certains postes très élevés, comme le maire de la ville, devrait quand même être réservé à un autochtone du coin. Tout cela parce qu'on a un problème ici qui d'ailleurs rejaillit dans la crise politique que traverse le Cameroun entre le principal opposant, M. Kamto, et le président de la République, M. Kamto, qui serait Bamileke, et les Bamileke ont le pouvoir économique, et M. le président de la République, qui est Boulou, eux, ils ont le pouvoir politique. Et il y a quelque chose de, comment je vais dire, de rampant, ethnologiquement fondé, qui fait que les Bamileke, c'est un peuple, ils disent qu'ils n'ont pas beaucoup, on dit qu'il n'y aurait pas beaucoup de terrain de leur côté, du côté de l'Ouest, parce qu'ils sont très nombreux, et donc du coup, ils se sont engagés dans un exode rural agressif, qui fait que, comment je vais dire, qui se reflètent sur leur capacité économique, voilà, parce qu'ils sont arrivés, ils sont commerçants, et ils ont notamment occupé, je ne vais pas dire occupé dans le sens péjoratif, mais ils sont en force, présents en force, dans les grandes villes comme Douala, la capitale économique, comme on dit, comme Yaoundé, prise d'assaut comme ça, parce que finalement, avec le temps, la force économique s'est transmuée à une force plus qu'économique en fait, qui est devenue sociale. Elle est devenue trop voyante et avec ces pratiques qui sont inhérentes au monde économique, qui sont des pratiques d'exclusivité, de monopole, de constitution en groupe et qui font qu'on exclut tous les autres. Et on a eu déjà une alarme, une alerte. Dans des villes comme Saint-Mélima ou Ebolova, où vraiment les populations autochtones se sont levées, ont demandé aux Bamileke de partir, de rentrer chez eux, parce que eux, ils ne pouvaient pas faire du business chez eux, puisque tous les pans de l'activité économique sont occupés par les Bamileke, et puis eux, ils peuvent plus rien faire, d'autant que il y a un problème d'accès au crédit. Les banques ne donnent pas de crédit. Et il faut être organisé comme les Bamileke pour avoir de l'argent frais au sein des tontines, de façon à pouvoir financer son entreprise ou son petit business. Alors, dans les faits, les Bamileke, ce sont des gens qui ont ce qu'on appelle des tontines, une forme de cotisation financière où chacun donne un certain montant. Ça fait un peu une forme d'épargne crédit. Et à la fin, vous pouvez même parfois acheter de l'argent, comme on dit, et emprunter moyennant un taux, enfin une mise aux enchères d'une certaine somme d'argent que voilà, les entrepreneurs peuvent emprunter. Bon, ils sont organisés pour cela, en sorte qu'ils trouvent facilement du financement hors circuit bancaire. On les appelait les tontinards. Et de l'autre côté, on a dit que tous ceux qui n'étaient pas Bamileke, tant pis pour eux, parce que c'était des sardinards. Ça veut dire qu'ils se contentaient de manger pain sardine, comme on a dit, le sandwich africain. Et ben voilà, qu'ils n'avaient pas à se plaindre si les Bamileke étaient là. Donc la question réjaillit donc brutalement comme ça, parce qu'effectivement, en même temps, on attendait les élections locales, et en même temps, ça vient refroidir tous ceux qui ne sont pas autochtones du coin où ils vivent et où parfois ils sont nés, parce qu'on a dit oui, mais afin d'éviter que le pouvoir économique ne se transfère automatiquement vers le pouvoir politique, ce qui se dessinait, non, il faut que ce soit les gens du pays, enfin du territoire, parce qu'on se dit qu'ils auront plus à cœur de développer leur territoire. Bon, cette partie est discutable, mais cette partie ne m'intéresse pas. Mais c'est vraiment pour éviter que la corruption et le pouvoir de l'argent viennent gangréner et opprimer les peuples chez eux, parce que en Afrique, n'en déplaise aux ethno, je sais pas quoi, fascistes ou aux afro-pessimistes, il y a une réalité ethnique. Nous ne sommes pas au temps des royautés où le roi avait décrété qu'on supprimait les langues. Il y a quelque chose qui est supra-déterminant, quoi qu'on en dise, ou infra-déterminant. C'est l'ethnie qu'on parle. L'ethnie qu'on parle, c'est le langage dans la linguistique, dit très bien que les gens sont d'abord unis par le langage. En deçà et en delà, et que cette Ce lieu-là de l'identité, en fait, est un lieu qui est à la fois très difficile à délimiter, mais qui a une force prégnante sur la personnalité. Et dans des comportements aussi que, vous savez, la langue exclut automatiquement. Quand vous comprenez pas, vous êtes exclu, vous regardez. Et ce serait vraiment aberrant que des allogènes, comme le président a dit, viennent parler leur patois sur un territoire voilà, qui n'est pas, par exemple, Bamileke. Et parce que là, en ce moment, la loi, les Bamileke se sentent visés, mais la loi ne les vise pas particulièrement, sauf qu'eux, ils sont vraiment voilà, pris dans ce piège-là de l'exode rural, qui fait d'ailleurs qu'il y a un effet pervers. Il y a un effet pervers parce que quand vous n'êtes pas Bamileke, vous allez en pays Bamileke, vous pouvez rien faire là-bas. Et quand eux, ils viennent de l'autre côté, ils peuvent tout faire. Pourquoi? Parce que c'est l'argent qui a cette force-là de frappe, on va dire. Mais c'est pas juste. Donc il faut établir un peu de justice et d'équité. Et là, franchement, moi, je trouve il y a un tollé hein, parce qu'on compare, on dit oui, mais en France, peu importe où tu es né ou peu importe ton origine, tu peux, mon œil, tu peux quoi? Les immigrés peuvent quoi en France? Ils ont toujours les stigmates de l'immigration qui font qu'il y a un plafond de verre qui existe encore ici, on peut faire tout franc. Et au Cameroun, il y a beaucoup d'ethnies. Et la réalité sociologique est telle que si on ne fait pas attention à ces grands équilibres, ça va exploser. Alors, il faut faire quoi? Moi, personnellement, je trouve que rien ne me choque à ce que les autochtones aient donc la primauté sur l'élection. Mais en plus, il y a une chose, quand vous êtes un acteur économique puissant, vous pouvez manipuler l'élection. Le tout n'est pas de dire, c'est vraiment pour donner la main à ces autochtones qui sont dépossédés de leur dignité, de leur histoire, parce que c'est ça, quand ils arrivent, les gens arrivent comme ça à l'extérieur, peu importe qu'ils soient bamblékés ou pas, on va commencer à acheter les terres n'importe comment, on va déposséder des terres, on va commencer à vous traiter n'importe comment, déposséder de votre force vitale, de votre héritage, voilà, parce qu'on a eu carrément un ministre qui a déposé un chef traditionnel, chose inouïe. C'est pas possible, on est chef traditionnel parce que c'est de génération en génération, ces choses-là. On protège ceux qui sont fragiles pour qu'ils aient la dignité encore de représenter le chez eux. Et on sait très bien que tout ce qui est allogène, qui a de l'argent, va pas manquer de manipuler les élections en soutenant tel ou tel. Et puis bon, l'équilibre est là, moi je suis d'accord. Et mais ça fait un tollé généralisé. Les gens, les Bamlékés, ils ont l'autre avantage sur les autres, c'est qu'ils sont plus nombreux. Donc, à la fois plus nombreux et plus puissants économiquement, et vous, ils vous écrasent. Donc là, ça ne peut pas marcher. Et cette loi, moi, elle est la bienvenue parce que je trouve que c'est vraiment une interprétation démocratique de la République dans le sens de l'égalité, de la liberté aussi, et puis de la fraternité. À la fraternité, on n'a pas dit aux gens de partir, de rentrer chez eux. Non, ils sont là, ils peuvent continuer leurs activités normalement. Mais moi, je prends le pari qu'avec le temps, il y aura un mélange, que ça, c'est un passage. Et avec le temps, il y aura un mélange qui fait que bah, peut-être que les choses vont évoluer d'ici 25, 50 ans autrement. Mais c'est un passage obligé. Moi, je suis tout à fait d'accord. Pour terminer, ceci sous réserve qu'il y ait des élections. Mais enfin, élections ou pas, il y aura déjà la décentralisation. La décentralisation, elle est un peu déconnectée des élections. Donc, ça, c'est un projet politique. Pour terminer, il y a un autre sujet qui fâche ici. C'est sur la gouvernance. Le président a décidé d'embaucher 2000 docteurs sur 2, 3 ans. La première année, cette première année, on embauche 1000 parce qu'il faut rattraper le retard. Il y a une explosion démographique, il y a une explosion au niveau de ceux qui arrivent à l'université, il y a une explosion de tout ce qui est enseignement privé, supérieur, sans que le nombre d'enseignants suive la trajectoire. Le recrutement est ouvert à la diaspora. Très bien. Et le problème, c'est qu'il y a eu un couac. Il y a eu un couac parce que forcément, on devait en éliminer. Et ceux qui sont éliminés, bah, ils sont pas d'accord. En fait, ils sont pas d'accord parce que vous savez, c'est toujours pareil quand l'État recrute, surtout dans les universités, c'est d'une opacité terrible. Bon, moi, je sais que ça pouvait pas aller, les choses ne pouvaient pas être autrement. Moi, on m'a poursuivi ici, Macron m'a poursuivi ici, parce que vous savez, en France, moi, je suis rebelle. J'ai un doctorat en sciences de l'information et de la communication, ce qui est mes promotionnaires travaillent. Bon, moi, je travaille pas, j'ai pas été recruté. C'était l'époque où les immigrés ne devaient même pas rêver, c'était pas possible, c'est très compliqué. Il y a eu des recrutements, bon, bizarres, mais ça, c'est après, c'est l'université qui a eu la main, qui fait ce qu'elle veut. Moi, je suis entré en rébellion parce qu'il y a des choses qui sont inadmissibles. Je veux dire, soit on a tous le doctorat avec des mentions honorables et tout ce que vous voulez, soit on l'a pas. Et puis quand on est recruté, certains... Bon, enfin, moi, j'ai compris depuis que pour enseigner à l'université, ce n'était pas aussi simple, c'était politique. On le voit d'ailleurs aux États-Unis où il y a des universités où on chasse carrément certains intervenants parce qu'ils ne sont pas de gauche. Voilà, ils vont venir tenir des propos de droite et les étudiants montés. Ben, voilà, l'université est prise en charge par... un nouveau mandarinat politisé qui de gauche, d'une gauche, comment je vais dire, vendue aux grands intérêts du pouvoir et capitalistique. Donc l'université n'est même plus le temple du savoir et de la recherche. C'est devenu, quoi, comment je vais dire, une greffe. Je sais pas comment dire ça, accessoire de l'État. Bon, antichambre de l'État, si vous voulez, pas c'est l'État qui nomme les enseignants. C'est très compliqué, puis on nomme des trucs. C'est très opaque ce milieu-là. Et on recule pas comme ça. On recule pas comme ça. Et ce qu'on n'a pas dit aux gens, mais moi, mon côté rebelle, exclu de tout et de partout, a fait qu'on m'a suivi jusqu'ici, puisqu'ici, bien évidemment, on revendique le départ de la France. Parce que la France fait des choses incroyables ici. Elle reproduit tous les travers du système français ici sans les avantages. Et ça, on ne peut pas accepter. Et plus le pillage des matières premières, bon, bien sûr, il y a l'immigration. Donc on revendique et on ne voit pas vraiment jusqu'au bout. Et puis vous connaissez l'histoire du franc CFA qui est une arnaque totale parce qu'elle aspire toute la force vitale de l'Afrique. Bon, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et ce duplicata-là du système français au Cameroun est un désastre parce que ça cultive la médiocrité. On a des diplômés ici à n'en savoir plus que faire, mais quand vous donnez un boulot, il n'y a rien. Parce que c'est du n'importe quoi, c'est de la politique, c'est de la politique d'abord. Bon, ils se plaignent, ils font grève, hein, ceux qui n'ont pas été reçus. Moi, on m'a exclu parce qu'on a dit l'âge, plus de 45 ans. Non, vous devez avoir 45 ans, moins de 45 ans pour être recruté. Mais ça, c'est la connerie, la sottise. Je veux dire, moi, j'ai une expérience telle que un gamin de 45 ans ou un jeune de 45 ans n'aura, il n'a pas. Il n'a pas, j'ai compétences plus que lui, de fait. Je n'ai même pas à le justifier. Donc ça va faire une sous-qualité de l'enseignement. Et je ne sais même pas si on a regardé très. Je veux dire, le jeunisme, pour le jeunisme, c'est bien beau, mais c'est de la connerie. Et l'Afrique est dedans, mais vous savez aussi, c'est la mode actuelle. Et depuis que Macron est venu, tout doit être jeune. Premier ministre finlandaise, 34 ans, ben oui, tout est jeune, c'est les jeunes qui savent tout, mais ils savent rien. Ils savent rien du tout. Parce que quand vous discutez avec eux, bah, c'est le jour et la nuit, il faut arrêter. Donc le Cameroun qui reproduit ces choses-là, non, vous êtes déjà trop vieux, non, la fonction publique, quand on a dépassé 50 ans, 55 ans, c'est fini, vous êtes à la retraite, mon œil. Ils sont à la retraite, les hommes politiques, ils sont à la retraite, les sénateurs, ils sont à la retraite, les législateurs, ils sont à la retraite, les gens du gouvernement, etc., etc. Donc il ne faut pas tromper le monde. Mais tout ça, c'est au détriment de la formation et de la qualité et du progrès. Je veux dire, on est dans un système généralisé de la médiocrité, alors ils s'entretiennent. Et puis vogue la galère, hein. Les jeunes ils arrivent, donc, moi je les appelle les jeunes puisque c'est ce qu'on dit, il y a une grève, ils font grève devant le ministère, on ne nous a pas retenus, ben, forcément on en voulait 1 000, on ne va pas en retenir. Et puis connaissant l'Afrique, je ne sais pas l'ethnicité, si quelqu'un connaît le ministre, qui connaît le secrétaire général de l'université, qui connaît, il passera, quelle que soit sa mention d'ailleurs. Et ailleurs la mention ça veut rien dire parce qu'après quand on recrute les gens à ce niveau-là pour enseigner, il faut voir ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont produit. Normalement on venait pas enseigner. Bon, enfin bon bref ce truc-là c'est encore un truc qui vient maintenant si chacun va contester qu'on m'a pas recruté, ben, évidemment c'est parce que le recrutement n'est pas clair. voyez? Et on a ça, c'est un désastre. On voit des docteurs couchés par terre devant le ministère. On voit des docteurs. Il y a une qui a menacé, qui a pris des cachets pour se suicider. Je sais pas trop. Elle est entre la vie et la mort. Vous voyez, c'est des images. Le ministre est sorti pour s'en expliquer. Ça rime à quoi? Ça montre qu'il n'y a pas de transparence dans la gouvernance. Il n'y a pas la recherche de l'excellence. Qui fait que quand on recherche l'excellence, elle est incontestable et incontestée. Il n'y a même pas la volonté de former des gens, parce que si on forme des gens, ils vont critiquer le gouvernement, ça n'ira pas. Il y a des profs, il y a un prof qui a été suspendu quelque part, tout simplement parce qu'il a évoqué, convoqué le nom de l'opposant au cours de son cours. Vous voyez un peu. Donc l'université est en panne, elle est à terre. Elle est dégradée, faut voir les locaux ici, c'est d'une saleté comme pas possible, tout est cassé, c'est dégradé, l'université ressemble à rien, c'est une large poubelle, et bon, je vais pas continuer, mais quand vous voyez ce délabrement-là et cette saleté, moi j'ai enseigné un peu, les salles sont pleines de poussière, c'est sale de partout, c'est infect, les locaux sont mal construits, bon, on était bien là sur la décentralisation. Mais vous voyez, c'est une chaîne. Si on forme mal les jeunes, la décentralisation, je vois pas trop quel est son avenir. Mais restons positifs. Amis de Radio Silence, vous avez écouté Flash sur le monde. C'était Élise Mbok depuis Yaoundé. Je vous dis joyeux Noël, de très bonnes fêtes. Et je ne sais pas si je ferai une émission pour la nouvelle année. Je ne crois pas, parce qu'il n'y aura pas, y aura rien. Ici, la campagne commence en janvier, et puis ça finit une semaine avant le 9 février. Ça sera janvier, la campagne en gros, parce qu'après, une semaine avant les élections, il n'y a plus de campagne. Si les élections ont lieu, parce que rien n'empêche qu'elles soient reportées. Et bon, au point où on en est, qu'elles aient lieu, qu'elles n'aient pas lieu, je crois qu'au niveau du Conseil de sécurité, il y a des choses qui pourront se décider avec la présidence de l'Amérique. Bonne fête et à bientôt!